Alors, ça me permet justement de changer de sujet et d'aborder donc le dernier point qui est les enfants. Lorsqu'on se donne l'un à l'autre, il y a une loi naturelle. Alors là, là aussi, heureusement qu'on est... Parce que c'est vraiment très catho-catho ce que je veux sortir, mais bon... C'est vrai dans beaucoup d'autres considérations de naturelles. Hein. L'Église a été confrontée au développement de la contraception chimique à partir des années 50-60. Et le pape Paul VI a dû prendre une décision limpide et claire de qu'est-ce que dit l'Église. Il a dit, on ne peut pas l'accepter parce qu'elle est contraire à l'acte naturel humain. L'acte conjugal, l'acte sexuel humain est un acte entre un homme et une femme tout seul. Oui. Et la fécondité est naturelle, c'est-à-dire aussi avec ses faiblesses. Il y a des moments où on n'est pas fécond. Il y a un moment où le corps n'est plus fécond du tout. C'est ce qu'on appelle la ménopause ou l'andropause pour l'homme. Mais l'acte sexuel lui-même reste naturel. C'est la raison pour laquelle, même s'il n'est plus question de jeune sexualité, n'est-ce pas, on ne mariera qu'un homme et une femme, même âgés. Vous avez des veufs, des personnes qui sont déjà mariées, mais des veufs qui se marient pour terminer leur jour. Ils ont 70 ans, 75 ans, ils rencontrent quelqu'un, ils tombent amoureux. Mais on ne pourra pas marier deux vieux hommes ou deux vieilles femmes, même s'ils ne posent pas d'acte sexuel qui ne soit pas conforme à l'acte naturel. Parce que on présuppose toujours que deux mariés peuvent poser l'acte naturel. Un acte naturel qui se fait par les voies naturelles. Voyez. Et donc, sans préservatif ou sans contraception chimique qui, après l'acte, empêche la fécondité de l'acte. Voyez. Alors, vous allez me dire, oui, mais vous rendez compte, il y a des personnes qui ont une très bonne santé, des très fécondes et qui pourraient avoir... un enfant tous les deux ans et se retrouver à 12, 13, 14 enfants. Eh bien, comment dire, autrefois ça posait pas de problème. Mais oui, mais à l'époque, les enfants mouraient en bas âge. Sur 10 enfants, il y en avait 4 qui survivaient. Donc de nos jours, si on en a 10, les 10 vont survivre, ça va être terrible. Eh bien, on assume. Et ensuite, étant donné que la contraception chimique a développé la famille à un ou deux enfants, ou trois enfants au maximum, il y a une véritable pression sur les couples qui vivent leur sexualité dans la confiance, dans la providence divine. Alors, s'est développé ce qu'on appelle les méthodes naturelles pour que le couple ne se rapproche que dans les périodes, quand ils ont trop d'enfants ou que l'enfant ne viendrait pas à propos par rapport à leur travail, leur situation financière, eh bien, on va être avec le thermomètre, la méthode Billings, comment dire, c'est-à-dire... que la femme connaisse ses périodes de fécondité de manière très précise et donc faire une sorte de contraception naturelle. Il y a un petit esprit contraceptif là-dedans, mais pas totalement. Pourquoi ? Mais parce que on prend le risque d'avoir un enfant. Et voyez-vous, pour ceux qui sont croyants, cette mentalité qui a explosé dans les années 50-60. Et c'est vrai, ça marche pas, quoi. On n'arrive pas à s'entendre. Oui.
Je vois mal où est la différence philosophique entre une méthode naturelle et une contraception chimique.
Mais parce que la contraception chimique, elle est certaine à 95%. La méthode naturelle, il y a une méchante ouverture à la vie dans la méthode naturelle.
Hein. Oui, mais c'est la même philosophie. C'est le même but.
Non, c'est pas le même but. Parce que dans la contraception chimique, il n'y a quasiment jamais d'enfants.
Mais en fait,
et dans la méthode naturelle, nous voudrions éviter d'avoir trop d'enfants et de ne pas avoir la capacité, la force de les assumer. Ensuite, vu qu'on ne prend pas des moyens absolus pour ça, on reste ouvert à la bonne nouvelle.
Enfin, je pense que c'est quand même. Si c'est bien fait, la méthode naturelle, elle est quand même très efficace.
Oui.
Non, mais enfin, sur les cycles.
En fait, non, il y a.
Il y a des femmes qui sont très peu réglées.
Oui. Oui.
Ah, ben, il faut que la femme soit une pendule. Si. Si c'est pas une pendule.
Enfin, j'ai du mal à. L'idée. La démarche est la même. C'est limiter la natalité.
Oui, mais pour des circonstances objectives. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle la paternité responsable. Hein, et le pape François s'est rendu célèbre, lui qui dit des phrases un peu. Hop! Olé olé, hein. Elle dit c'était une femme qui était à son 8e enfant par césarienne. Et il lui a dit, mais on n'est pas des lapins. Et c'était peut-être pas très respectueux pour la dame, hein, quand même. Hein. Et comment dire, la paternité responsable, c'est s'il y a des gros risques, s'il y a des raisons objectives, mais. Reste ce côté sacré de l'acte sexuel et que l'Église, droit dans ses bottes, défendra jusqu'à sa mort, à la fin des temps. Car l'Église catholique, enfin la foi, attendra le retour du Christ.
Il y a deux risques objectifs, mais si on recule un peu et qu'on regarde de façon plus globale,
oui.
Il y a un risque objectif parce qu'il y a une surpopulation qui d'ailleurs se préfigure sur le globe.
Oui, mais ça, l'Église catholique le récuse. C'est la théorie du pasteur Malthus. Et donc, dans la foi, on considère que les personnes honnêtes, vivant honnêtement, ne vont pas mettre en danger la vie mondiale. Que le fait qu'il y ait 100 milliards d'Africains dans 500 ans, eh bien, on pourra continuer à vivre.
Ah. Comment ? Avec quelles ressources ?
Eh bien, avec des ressources qu'on trouvera à ce moment-là. Alors, ce à quoi les mystiques vous répondront que ça ne se passera pas parce que avant l'homme se sera anéanti par une guerre thermonucléaire comme il est décrit dans l'Apocalypse. Mais c'est pas un argument assez fort. Mais il a son côté comment dire mystico-dingo. Mais si vous voulez. Et c'est toute la querelle de COP21 ou de l'écologie actuelle, ou de la décroissance, hein, de dire vous avez une société philosophique américaine aux États-Unis, dans l'État de Virginie, non, de Géorgie, c'est un État, hein, c'est pas la Géorgie, le pays hein, d'Europe de l'Est. Eux, ils sont très très Gaïa, hein, planète Terre et compagnie, hein, donc ils ont fait faire un monument avec 6 dalles de granit énormes, avec les 10 commandements du monde futur, en disant le monde futur ne sera heureux que s'il y a 500 millions d'habitants. Alors, pour assurer cette décroissance, ce groupe philosophique, je ne sais pas ce qu'il propose. Parce que pour qu'on atteigne 500 millions d'habitants, il faudrait qu'on applique les lois de la Chine de manière impérative et absolue pendant longtemps. Hein.
Oui. Et donc, sous prétexte qu'il y en a qui exagèrent dans un sens,
oui.
On se trouve normal qu'on aille vers 9 millions d'habitants sur la Terre. Et on tolère le fait que l'Afrique soit surpeuplée, malgré le fait qu'elle a aussi des ressources, oui, pour répondre déjà aux qui habitent aujourd'hui sur le continent.
Oui, mais ça, ce sont des querelles politiques. Actuellement, quand même, au-delà de cette politique, on sait très bien que si on n'exploitait pas les Africains, au point de vue des ressources et au point de vue de leurs richesses, ils pourraient nourrir leurs habitants et plus dans l'avenir.
C'est pas le cas, ils doivent déjà importer.
Ça, c'est votre opinion.
Non, c'est pas mon opinion. Il faut lire des journaux et on voit qu'ils importent.
Oui, mais ça, ce sont des opinions politiques. Il y a des personnes qui n'ont pas la vôtre. Ah ben, vous dites c'est objectif, c'est-à-dire que votre opinion est une certitude et que les autres ont tort.
Non, je me base sur des informations qui...
Oui, mais d'autres contredisent ces informations.
Qui sont sur les importations et exportations des pays, oui. C'est extrêmement objectif.
Ah ben, pas seulement, il y en a qui disent qu'il y a un seul pays d'Afrique actuellement qui a des terres tellement arables qu'il pourrait nourrir toute l'Afrique, si c'était exploité correctement. Oui. Et si vous voulez, bon, ça c'est une querelle. Mais est-ce que, si vous voulez, vous-même, enfin, c'est une querelle qui est intéressante, hein, parce que est-ce que si les gens ont leurs enfants tranquillement, avec une paternité responsable, peut-être que s'il y a une surpopulation, un danger pour la santé de la mère, un danger financier. Hein, vous allez être ruiné si un quatrième enfant. Enfin, en France, avec toutes les aides sociales, vous ne seriez pas forcément quand même ruiné. Mais dans d'autres pays, ça pourrait être terrible. D'un autre côté, vous avez des pays pauvres, ils ont des ribambelles d'enfants. Mais alors, vous voyez, oui, mais ils meurent, ils sont malades. Voyez. Mais actuellement, nous avons suffisamment. L'humanité a quand même des grosses responsabilités par rapport à l'organisation de la culture de la terre et de l'occupation de l'espace pour pouvoir avoir des familles légitimes paisiblement. Vous voyez, vous n'allez pas reprocher à des familles de 5-7 enfants d'exister. Elles peuvent exister. Oui. Mais bon, ce sont des sujets qu'il faut aborder très franchement dans une préparation mariale. Et donc, mais l'Église va vous dire de vous ouvrir à la vie, et si vous avez un enfant malade, de l'accueillir comme d'autres enfants. Et si on vous dit dans un diagnostic que votre enfant est trisomique, de l'accueillir comme un enfant malade, mais qui sera malade pendant des années et des années. Parce que l'avortement est toujours la mort d'une personne humaine pour les croyants et les croyants chrétiens. Et donc, c'est pas évident comme ça au premier abord, hein. C'est vrai. Mais franchement, hein, nous, on est vraiment là-dessus. On parle de paternité responsable et avec le danger que vous avez soulevé. D'un esprit contraceptif, qui soit chimique ou méthode Billings, qui puisse arriver à être une hypocrisie. D'ailleurs, de fait, moi je connais des couples qui sont tellement impliqués dans la contraception naturelle que ça devient obsessionnel. Mais bon, oui.
Comment ça sur l'assistance à la procréation médicalement assistée?
Oui, alors alors je parle même pas de la GPA, parce que là c'est exploiter une femme et lui arracher le, un enfant qui s'est développé dans son ventre pendant 9 mois, c'est tout simplement immoral, hein, enfin pour la foi chrétienne et même pour d'autres. Pour la fécondation médicalement assistée, la première cause du fait que ce n'est pas bon, c'est que ça ne se fait pas dans l'acte naturel. On assume la stérilité. Oui. Et c'est l'homme et la femme qui s'unissent et pas, comment dire, l'homme qui dépose sa semence dans le corps de la femme qui la reçoit. La fécondation médicalement assistée, c'est en dehors de cet acte naturel. Je dis, mais vous êtes vraiment naturaliste, rétrograde et compagnie. Ouais. C'est la première et vraie cause. Il y a une deuxième cause qui vient après, c'est que lorsque vous... alors cette première cause fait que vous ne pouvez même pas, un médecin ne peut pas prélever la semence et tout de suite, ou assez fraîche, la mettre dans le corps de la femme mécaniquement. C'est un troisième qui intervient. Vous voyez ? Et on, c'est vraiment moyenâgeux. Je vous le concède. Oui ?
Alors, mais du coup, j'ai une question. Est-ce qu'on ne peut pas dire que Dieu nous a donné une intelligence qui, avec cet acte, peut quand même rendre des couples très heureux ?
Oui, mais si vous voulez, c'est... Comment dire ? Donc, c'est par exemple l'insémination par une seringue dans le corps de la femme, hein, mécaniquement. Il y a quelque chose de... c'est l'intervention d'un tiers, c'est en dehors de l'intimité du couple. Oui. C'est, vous savez, il y a peu de prêtres qui osent vous dire la cause. Hein. Moi, je vous le dis, c'est... La première cause, hein, c'est que l'acte sexuel est à deux. La deuxième cause, c'est aussi par rapport à la présence d'une troisième personne. Vous pouvez me dire, c'est très très ténu. Hein. Ouais. Heureusement, on a d'autres petites causes à vous sortir. C'est qu'en règle générale, ça ne se passe pas comme ça, et ce n'est pas suffisant. On va faire une fécondation en dehors du corps de la femme. Et alors là, on peut vous dire que c'est hautement immoral parce que le petit être conçu, au lieu d'être conçu dans le corps humain à l'extérieur, est exposé à une mort imminente. Et il y a un taux de mortalité de l'embryon fécondé en dehors des voies naturelles extraordinaire. Déjà, il y a beaucoup de fausses couches dont on ne se rend pas compte. Où il y a une fécondation et l'œuf part. Déjà dans le corps de la femme. Alors, dans une éprouvette, je peux vous assurer que c'est un massacre. D'ailleurs, la plupart du temps, on prend 4 ovules pour les féconder. On n'en prend pas un par un. Parce qu'il y a un tel taux de mortalité que ça coûterait trop cher. Donc on en prend 4 par 4. On les féconde. Et il faut qu'il y en ait 4 qui soient fécondés. Et on les injecte dans la mère. Future, espérée. Et on espère que un des 4 s'accroche. Si aucun des 4 ne s'accroche, ils meurent tous. Mais c'est pas grave. Mais vous voyez, le problème, c'est qu'on a tous été ce qu'on appelle des murulas, hein, c'est-à-dire des... ces deux noyaux de l'homme et de la femme qui se fusionnent et se développent. Et ça, c'est sacré. C'est la vie. C'est la vie humaine. On a tous été petits comme ça. Et de cet acte-là jusqu'à la vieillesse, on n'y touche pas. Fallait bien que vous l'entendiez une fois. Vous dites, ah ben oui, ils sont vraiment... Ils en tiennent une couche, les cathos. Hein. C'est bien ce que disent les médias. Hein. Bon. Mais moi, j'ai rien à perdre. Donc je vous dis ce qui est vraiment dit, et puis après. Alors, trois s'accrochent. Ah, il y a des gens qui sont honnêtes jusqu'au bout, mais on ne parle pas de tous ceux qui sont morts avant, hein, dans les tentatives précédentes et dans les, et dans les, et dans les éprouvettes. Il y en a un certain, il y a déjà pas mal de morts avant. Hein, bon. Oui, mais ils sont minuscules comme ça, pourquoi vous parlez de morts ? Ah ben, voilà. Eh bien, ensuite, ceux qui sont très honnêtes, les quatre s'accrochent, la femme garde les quatre. Et l'homme aussi. Mais alors, grossesse multiple et tout, bon. Sinon, pique et cholégramme. Réduction embryonnaire. À deux se sont accrochés, j'en voulais qu'un. Trois se sont accrochés, oh, trois c'est trop. Et on ne peut pas en avoir que deux. Ah, alors on va aller au scalpel et on va, avec une petite caméra, faire clic et on décroche un des ovules. Voilà. C'est ça la PMA. Hein. Donc voilà. C'est. En tout cas, excusez-moi, hein, vous aurez eu le détail. Alors du coup, l'adoption. Eh bien l'adoption, hein, c'est quelque chose de difficile. Hein. C'est lorsqu'on est stérile et que le temps passe. Parfois il y a des causes objectives, parfois il y a pas de cause, on ne comprend pas. Et c'est encore plus douloureux. Parce que si au moins on nous annonce, vous êtes stérile, voilà, vous n'avez pas d'ovule, là on est certain. Et on se dirige plus vite vers l'adoption. Mais si tout fonctionne et puis qu'il n'y a pas d'enfant, on ne comprend pas. Vous voyez ? C'est sûr. Et l'adoption est toujours quelque chose de, qui doit être réfléchi et bien voulu. De nos jours, on a des enfants qui sont parfois âgés. La meilleure adoption, c'est un tout petit bébé. Il y a des gens qui sont courageux et qui vont adopter un enfant de 5-8 ans, 3 ans. On prend des enfants aussi qui nous ne ressemblent pas et c'est parfois plus difficile. Il faut pas se prendre aussi pour des anges. Et adopter un petit Africain bien noir, d'Afrique centrale et tout ça, il faut une très grande pureté d'âme et supporter le regard des autres, tout ça, enfin je sais pas, il y a plein de choses. Et lui-même, quand il sera grand, il s'apercevra, ils recherchent toujours leurs parents, hein. Un enfant adopté recherche toujours ses parents, selon le sang. Mais est accompagné vers la compréhension que ses parents n'ont pas pu le garder ou sont morts et qu'il a été adopté. Il y a un moment donné où il faut lui dire, hein, il faut lui dire qu'il a été adopté. Et là, on ne peut pas développer ça. Hein. Et vous comprenez bien que si ça vous arrive, il faudra être accompagné. Hein. Mais aussi, si l'un d'entre vous a des problèmes de stérilité, avant le mariage, il doit en parler très franchement. C'est une cause de nullité de mariage, hein, de dissimuler sa stérilité. C'est une cause de nullité. Par contre, d'assumer sa stérilité avant le mariage n'invalide pas le mariage. C'est une maladie, c'est une faiblesse corporelle. Mais le mariage reste dans son fondement l'union de deux personnes. Mais une union de deux personnes avec une union sexuelle complémentaire, homme-femme, mais qui à cause d'une maladie, d'une faiblesse, n'aboutit pas à l'enfant. Mais la sexualité est toujours naturelle.
C'est une possibilité quand on sait avant de s'engager et qu'on ne le révèle pas.
Mais voilà, tout à fait.
Après,
ah ben ça, c'est une épreuve. Voilà. C'est la maladie. Ouais. Par exemple, vous avez votre époux qui a un accident et qui devient tétraplégique, tout ça, vous, C'est... Oui. Vous ne l'auriez pas épousé tétraplégique, mais maintenant qu'il est tétraplégique, ou alors il devient, il devient un peu hébété. Eh bien, on aime. On aime, comment dire, dans la santé et dans la maladie. Hein, quand vous verrez les formules d'échange de consentement, hein, c'est ça, dans la santé et la maladie, dans les joies et dans les épreuves, voilà. Quelque chose de très très profond, hein, dans le mariage. Moi, on a un couple ami de ma famille, de mes parents, qui n'ont jamais pu avoir d'enfants, qui n'ont pas adopté, et qui étaient extraordinaires. Extraordinaires. Cet homme et cette femme, pour moi, on soit un exemple de mariage dans ma tête. Hein. Ils ont eu une épreuve, l'homme a été malade, elle a été courageuse, en même temps, ils ont surmonté, les choses sont redevenues dans l'ordre, ils ont pu retrouver une paix après. Oh, waouh! Les gens, oui, inspirent le respect. Alors, la fécondité des cœurs, l'accueil, l'ouverture aux autres, l'ouverture aux belles familles, tout ça. Excusez-moi d'insister. Qu'est-ce que nous aimerions transmettre? Sommes-nous engagés dans des œuvres au service des autres? Voilà. Envisageons-nous cela en couple? Voilà. Bon, je crois que j'ai été suffisamment long. La prochaine fois, nous ferons une séance sur la dimension justement de la foi et de la prière pour vous, pour l'un d'entre vous, et donc sur le lien sacré et le lien sacramentel. Vous voyez ? Je vous ferai toutes ces distinctions à ce moment-là, mais je ne peux pas tout dire d'un coup. Et donc aujourd'hui, comme notre couple accompagnateur n'est pas là, donc par rapport à votre question et votre remarque très importante, par rapport à la contraception, par rapport à avoir trop d'enfants, oui, eh bien moi je connais des familles qui sont pas riches et des familles riches. Vous allez me dire, les familles riches, qu'elles aient 4, 5, 7 enfants, ça leur fait ni chaud ni froid, tout ça. Faut pas. C'est pas réservé à la bourgeoisie catho riche d'avoir des catomobiles. Vous savez ce que c'est une catomobile? C'est un van, hein, de 8 places, à Versailles. Non, il y a des personnes qui habitent pas Versailles et qui... C'est une anticipation un peu pour la prochaine séance. C'est faire confiance en l'avenir. Le débat sur l'écologie, sur le climat, sur la surpopulation, c'est aussi pour les croyants un débat sur la confiance dans l'avenir. Mère Teresa, qui était quand même une femme qui a montré son côté très très réaliste et très concret en Inde, accueillait tous les enfants possibles et imaginables. Et jamais elle n'a proposé la pilule, jamais elle n'a proposé des services d'avortement en Inde. Oui. Était très 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 cohérente, Mère Teresa. Et elle a tellement développé d'orphelinat, d'aide aux enfants partout, qu'elle était très logique, hein, c'est sûr. Et donc, parmi ces couples, vous voyez, il y a des gens justement qui, quand on leur parle de méthode naturelle, ils disent c'est comme si on prenait la pilule, et donc ils écartent ça. Ce qui est parfois quand même un peu trop sévère. Parce que les vieux curés disaient aux femmes, si votre mari est trop pressant et alors que vous êtes très très fatigué, épuisé, que vous, une autre grossesse va vous épuiser, il y avait les méthodes de grand-mère qui étaient d'allaiter longtemps. Donc, point de vue hormonal, l'allaitement fait une stabilité hormonale qui est comment dire, qui retarde l'ovulation. Hein, je suis la femme. Bon, vous allez me dire, alors c'est tout ce que vous nous avez à proposer pour espacer les naissances, c'est d'allaiter, allaiter, allaiter. Bah, je sais pas, moi. Oui, c'est. Vous avez dit, mais oui, vous vous rendez compte, vous n'avez pas d'enfants et vous emmerdez les autres à dire, à leur demander d'avoir des enfants. Mais, nous, on a une dimension du mariage qui est d'aimer malgré le fait qu'on n'ait pas assez de consolation. Et dans la vie de couple, la dispute, la querelle, le froid commence à venir lorsque justement on s'ennuie avec l'autre. On pourrait se dire, mais les prêtres, ils doivent avoir une vie d'ennui épouvantable. Ils sont seuls, qu'est-ce qu'ils font et machin. Mais si la présence de Dieu, la présence des autres remplit notre vie, non, on s'ennuie jamais. Et pas en multipliant les activités, d'ailleurs. C'est sentimentalement aussi. Or, assumer tous ces enfants différents, ces soucis, tout ça, c'est aussi ne pas se laisser submerger par le nombre, parce qu'on est dans un amour serein avec chacun de ses enfants. Plutôt que de les considérer comme une nouvelle charge supplémentaire. Alors peut-être que la vision de l'Église est trop naturaliste et que, comme de nos jours, il n'y a plus le grand-père, la grand-mère, la tante, l'oncle, une mère de famille s'occupe presque seule de tous ses enfants.
Avec la nounou.
Il y a la nounou, tout ça. Oui, mais c'est... les gens n'habitent plus au village. La grand-mère n'est pas là. La belle-maman n'est pas là, ou elle est loin. Ben oui, mais tout ça, ça pose de vrais problèmes, hein, c'est vrai. Oui. Ça laisse pensif. Ce sont les Africains qui nous disent, mais attendez, vous savez plus ce que c'est qu'une famille. Et, au synode sur la famille, les évêques africains ont dit, mais vous, les Occidentaux, vous vivez justement... comment dire, comme des égoïstes à deux, quoi. Vous êtes, vous voulez être satisfait dans votre couple à tout moment, vous prenez le pouls sans arrêt, tout ça. Nous, on n'a pas le temps. Nous, on vit. On est là, il y a le papa, la maman, les enfants, la tante, les machins, tout ça, les cousins. C'est une famille hyper naturelle. Donc, on ne peut pas accepter vos trucs. Et. Comme par exemple, pour eux, des personnes à tendance homosexuelle, ils en ont. Mais de manière, d'ailleurs dans l'enseignement de l'Église, on leur demande, ce qu'on considère comme hypocrite de nos jours, on leur demande une discrétion sur leur tendance, on leur demande une pudeur sur leur vie privée, sur leurs difficultés personnelles. Et du coup, on ne va pas déclarer marié deux femmes ou deux hommes. Parce que c'est pas la famille avec le père, la mère et les enfants qui viennent. Et eux sont obligés d'aller chercher les enfants d'autres personnes. Sauf à ce que un homme qui a eu deux enfants, par exemple une femme, la quitte et va avec un homme. Alors forcément, il a les deux enfants de sa... qu'il a eu avec sa femme. Mais le mariage homosexuel, c'est deux hommes ou deux femmes qui se disent mari et femme, enfin mari-mari et femme, et qui, du coup, sont obligés d'avoir des enfants de, artificiellement. Ça, c'est nécessaire. Et...
Sauf s'ils adoptent. C'est pas artificiel.
Ah, mais tout à... Oui, mais si un des deux contribue au côté artificiel, ben oui, mais c'est l'adoption par principe. Vous voyez ? Et puis l'enfant, lui... Donc l'adoption est toujours quelque chose de difficile, mais en plus, eux voudraient faire de la GPA. La plupart du temps. Une des deux femmes veut que la moitié de l'enfant soit d'elle. Mais il faut forcément une fécondation artificielle. Médicalement assistée. Voilà. Donc, ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas évité les sujets profonds et clairs. Alors, avez-vous quelques questions, des remarques supplémentaires?
Oui, c'était juste sur la première partie, sur le travail.
Oui.
C'est vrai que je trouve que c'est assez dur d'avoir une position là-dessus. Enfin, on a des boulots qui prennent beaucoup, beaucoup de temps.
Mmh.
Et enfin, moi, c'est l'une de mes craintes, après le mariage, de devoir gérer cette carrière et la vie de famille. Et...
Alors,
Je ne sais pas si c'est des choses à dire dessus, mais
figurez-vous que quand on joue le jeu du délire mystique des croyants qui accueillent la vie, trop d'enfants, machin, qui n'ont pas de contraception et tout, si vous vous retrouvez avec 5 enfants, vous allez probablement pas travailler à un moment donné. Alors ce que j'ai... comme j'ai connu des gens justement très catho, tout ça, c'est amusant parce qu'il y avait une femme qui était avocate, premier enfant, voilà. Deuxième enfant, bon, troisième enfant, waouh, et là, elle s'est occupée de ses enfants. C'est le plus beau métier du monde, c'est un vrai métier, un métier d'éducation, mais bon. Il y a des femmes qui veulent, qui disent, moi je... qui sont mystico-dingos, moi je prends les enfants que le bon Dieu m'envoie, qui ont des métiers qu'elles lâchent pas, donc alors nounou, machin, truc. 4-5 enfants. Il y en a d'autres qui donc se donnent à leur mission de mère. Le papa, il doit aussi aider, bien sûr. Et puis, très 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 rarement, c'est le père qui arrête de travailler, hein, et qui s'occupe des enfants. Il faut être moderne, hein, je vous le dis. Et puis, quand le dernier a 12-15 ans, hop, la maman reprend son travail. Quand, par exemple, c'était... Enfin, moi, c'est des métiers spéciaux, hein, où... C'était l'exemple que j'ai, c'est une avocate qui aimait énormément son métier. Et donc, elle en fait le sacrifice temporaire pour la plus belle, pour le plus beau des dons, mais elle reste dans sa volonté de travailler, et, enfin de travailler, d'avoir une activité particulière, et elle a repris son travail. C'est original. Mais vous voyez, parcourir le monde, en dehors de la France, de l'Occident, vous verrez que ça pose pas de problème d'avoir pour son de vous voyez c'est on est vraiment questionné par notre monde moderne. C'était tellement plus simple quand 95% des Français étaient à la campagne, quand on était agriculteur, agricultrice, tout ça, enfin voilà. Et mine de rien, les femmes travaillaient, elles étaient mères de famille, mais elles travaillaient au champ, à la ferme, tout ça. Et ce n'est pas des exemples qu'on peut donner de nos jours, c'est sûr. Mais je pense, et on verra ça plus la prochaine fois, c'est on se pose aussi, on anticipe peut-être trop aussi les difficultés. Il y a des choses qui se font en situation. En situation, vous voyez. Quand l'enfant vient, tout ça... Parce qu'un enfant, c'est toujours... C'est un monde. Hein, c'est... Regardez comme la personne humaine, même dans notre monde, qui, avec des législations plus ou moins larges sur l'avortement, dès que l'enfant est sorti de la mère, jusqu'à présent, il n'y a aucune loi qui permette de dire « Oh, il y a trop d'enfants sur Terre, claque !» Même en Chine. Un jour, il y a un gouverneur qui a fait mourir comme ça, qui a fait avorter une femme qui était à son huitième mois de grossesse. Hein. Là, ça a créé un scandale. Vous savez, les Chinois sont très obéissants, mais là, ils n'étaient pas contents. Hein. Contre le gouverneur. Et là, actuellement, vous savez, en Chine, il y a plus de 20 millions d'hommes sans femmes, en âge de se marier sans femmes. Ils vont au Vietnam, ils vont à gauche, ils vont à droite, mais il y a une vraie crise hein, là-bas. Parce que la nature humaine, vous savez, lorsqu'on lui permet de choisir, hein, alors avec leur culture, bon, ils avortaient que les petites filles, hein, en général. Mais c'est pas pour ça qu'on va vous dire ah oui, mais alors oui, mais on va avorter un garçon, une fille, une fois sur deux, pour que ça soit équilibré. Le message chrétien affronte toutes les réalités contemporaines, les inquiétudes de surpopulation, de mauvaise gestion des ressources humaines, des ressources terrestres. Mais il y a une sorte de, si vous voulez, de confiance et d'espérance dans l'homme et la femme et dans la famille. On n'arrivera pas à abandonner cette église en miniature, enfin cette humanité en miniature qu'est l'homme, la femme et les enfants. Et donc de leur donner une très très grande liberté et une très grande confiance. Et de, non pas de, d'étouffer de liberté, mais de un don qui, d'où les questions précédentes, vous voyez, on se préserve son jardin secret parfois aussi, on se préserve certains loisirs, pour pas être totalement étouffé, bien sûr. Mais, voilà, c'est sûr que si on veut être tranquille et individualiste, il ne faut pas se marier. Pas la solution. Or, nous avons été, même dans des éducations à familles nombreuses, tout autour de nous, on est le modèle est de plus en plus l'adolescent, hein, qui a 30 ans et est toujours sur son truc, sur son machin, se couche à 2h du matin, et voilà, et pas sorti de son adolescence. Quoi. Les geeks, vous voyez. Mais le message de la foi chrétienne est un message de confiance en l'avenir. Voili voilou. Excusez-moi d'avoir été un peu long, mais on a commencé un peu.